Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Mouni.
Chen Nibiru. Siki Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes donc mercredi 7 janvier 2015. Bienvenue à cette émission. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur la consommation d'alcool dans le pays. Nous aurons comme d'habitude trois volets. Le point sur la consommation d'alcool, les effets nocifs de l'alcool et enfin l'alcool et les réalités socio-culturelles au Mali. Donc pour cela, nous aurons deux invités, Sanouko Koulibaly, toxicologue. Nous aurons également un représentant du Haut Conseil islamique du Mali. Le théologien Ousmane Diarra, secrétaire général de la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Je suis Famoussa Sidibé et Mbo Sedoumbo est à la technique.
Studio Tamani.
Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la consommation d'alcool dans le monde, le Mali est troisième avec 29,3 litres et par buveur. Par contre, le taux de consommation dans le pays reste assez faible, 0,1%. C'est dire que c'est seulement 0,1% de la population malienne qui consomme de l'alcool. Alors, bonnet blanc ou blanc bonnet, ce rapport est-il flatteur pour un pays qui compte 98% de la population qui est musulmane? Nous en saurons plus avec donc nos invités. Tout d'abord, ma première question s'adresse à Ousmane Diarra, représentant du Haut Conseil islamique du Mali. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la consommation d'alcool, vous qui avez épluché ce dernier rapport de l'OMS?
Dieu merci. Nous saluons tous les auditeurs de la radio Tamani et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre pays, de guider nos pas, de nous assister, de nous aider à aller de l'avant et de nous aider aussi à se débarrasser des mots ou des comportements qui peuvent entraver notre développement, notre avancée. Et par rapport à la question de la consommation d'alcool, sur le rapport de l'OMS, je tiens tout d'abord à préciser, peut-être si le rapport couvre, d'après ce que je lis dans les rapports, c'est de l'année 2008 à 2010. Donc, les rapports nous parlent sur des enquêtes anciennes et qui, si on regarde aussi, on voit que les choses ont évolué. Peut-être tu peux avoir de débats par rapport à la fiabilité des informations qui sont dans le rapport, mais je pense que tout le monde est unanime que la consommation d'alcool a augmenté dans notre pays. Là, il n'y a pas de doute entre deux personnes. Deux personnes ne vont pas diverger sur cette question. On peut diverger sur le taux, on peut diverger sur les éléments des rapports, mais tout le monde est unanime que la consommation d'alcool est en train d'augmenter dans notre pays. Et que les bars, la prolifération des bars et des maisons closes ou d'autres moyens, quand quelqu'un qui se balade à Bamako et qui regarde un tout petit peu autour de la périphérie de Bamako, et quand tu partes aussi à l'intérieur du pays, tout le monde est unanime que la consommation d'alcool a augmenté dans notre pays. Donc, je pense que les informations qui sont dans le rapport, c'est indicatif. Et ne focalisons pas trop sur ça, mais quand même, c'est un élément indicatif qui doit nous amener à prendre conscience de cette situation, de ces phénomènes, et à prendre des mesures qui s'adaptent pour faire face à cette
Nouvelle réalité. Alors, je me tourne vers Sanouko Koulibaly, toxicologue. Vous êtes médecin. Alors, le gouvernement dit que c'est des informations qui datent de 2010. Est-ce que vous avez constaté une augmentation, vous, au niveau de... dans votre secteur, est-ce que vous avez constaté une augmentation de patients souffrant de problèmes liés à l'alcool depuis 2010?
Merci pour l'invitation.
Je remercie aussi le collègue qui est là au nom de la communauté islamique. Effectivement, pour revenir à votre question, je crois que ce rapport, même si c'est accablant, il faut en tenir compte quelle que soit l'année. Et bien que ce n'est pas actualisé, mais il s'agit effectivement d'une donnée plus importante parce que nous qui sommes dans les structures hospitalières et aussi dans la population, au sein de la population, nous constatons avec vraiment assez de remords de voir une telle croissance. On le constate à longueur de journée. Tu peux pas faire des jours sans trouver au bord de la rue, ou même il faut faire tout simplement une tournée noctambule et tu verras effectivement, que ça soit la population juvénile, les hommes ou les femmes, tu les croises étant ivres. Et aussi, sur le plan santé, on peut dire tous les jours, nous recevons des cas d'intoxication alcoolique, sans compter effectivement les effets sur les organes nobles. Et ça, c'est très alarmant.
Surtout
les organes nobles, par exemple, le cancer du foie. Tout le monde sait le problème qui tourne autour du cancer. Alors, des cancers d'origine alcoolique, les cirrhoses du foie, là, c'est très, très important aussi. Et c'est alarmant. Là, c'est des cirrhoses d'origine alcoolique. Et nous constatons effectivement un taux croissant sur le nombre de taux de pathologies d'origine alcoolique, même si je n'ai pas exactement des chiffres ici, le nombre de patients que nous recevons par jour, on peut effectivement faire des rapports et nous avons même des publications en cours dont je suis le premier auteur et bientôt ce serait publié, ce serait sur la cirrhose d'origine alcoolique et ce serait, on va voir tout ça, c'est pour montrer comment le Mali est en train de plonger. Bien que la population n'est pas tout le monde n'est pas concerné, mais il s'agit d'une consommation par personne. Et le classement est fait par rapport à cela.
Alors Ousmane Diarra, vous êtes secrétaire général de la jeunesse du Haut Conseil islamique, si je ne m'abuse. Vous êtes également imam à la FAST. Alors les jeunes sont accablés dans ce rapport et votre représentant, le président du Haut Conseil islamique, a interpellé le chef de l'État lors de la présentation des vœux au palais de Koulouba sur ce phénomène. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement sur les campus scolaires universitaire.
Ok, bon, je pense que les jeunes étant la majorité de la population malienne, nous avons une population qui est à majorité jeune. Et s'il y a un tel phénomène, cela veut dire que les jeunes sont le plus concernés. Et celui que, comme notre frère qui vient de nous dire, quand tu fais un tour à Bamako la nuit, et tu te rends compte que réellement les jeunes sont
au cœur
de ces problématiques. Donc, les jeunes, quel qu'en soit, peut-être au niveau universitaire ou dans la ville, c'est que les jeunes, c'est eux qui sont au cœur de ces problématiques. Et là, le président du Haut Conseil islamique a eu la sagesse d'attirer l'attention de nos responsables par rapport à ces phénomènes. Parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et quand on veut vraiment préparer l'avenir, quand on veut préparer des gens qui vont assurer les relèves, c'est les jeunes. Et si cette jeunesse sombre dans l'alcoolisme et que cette jeunesse tombe dans cette soit une jeunesse qui n'est pas une jeunesse bien éduquée, une jeunesse consciente de sa responsabilité, cela veut dire que notre avenir sera menacé.
Alors, est-ce que M. Diarra, il y a une influence quelconque des communautés étrangères sur cette consommation de cette couche au campus universitaire? On sait que plusieurs communautés se côtoient, c'est plusieurs nationalités. Est-ce que cela favorise la consommation d'alcool dans cette zone?
Bon, je pense que il faut pas qu'on focalise uniquement sur les campus. Ce n'est pas uniquement les campus qui sont concernés. Et c'est la ville. Et les jeunes, c'est une minorité de jeunes. C'est une minorité, n'est-ce pas, des étudiants qui habitent dans les campus. Et la majorité se trouve où? C'est dans la ville, à l'extérieur des campus. Donc, ne focalisons pas trop le débat sur les campus, mais il faut qu'on généralise. C'est que réellement, il y a un sérieux problème au niveau des campus sur le plan comportement, sur le plan de la sécurité. Mais je pense que le débat est plutôt un débat national. Les statistiques qui sont sorties, c'est des données national. Je pense que généralisons le débat, regardons le problème dans sa généralité, et dans sa globalité, c'est les jeunes qui sont le plus menacés et qui sont exposés à ces dangers.
D'accord.
Donc le président, il a voulu attirer l'attention de nos autorités sur ce phénomène. Je sais, comme vous avez dit, les étrangers, peut-être il y a des facteurs qui ont contribué à cela. On peut dire il y a aussi les étrangers, des gens qui ont d'autres traditions contraires à la tradition musulmane. Et aussi, il y a aussi le laxisme de nos autorités par rapport aux décisions ou aux lois qui doivent gérer, n'est-ce pas, les bars. Et quand on voit peut-être dans la ville, on est étonné de voir peut-être quand tu quittes, tu te balades un tout petit peu à Bamako.
La floraison.
Et la floraison, tu regardes des panneaux publicitaires, un peu plus une bière. Et quand tu quittes Bamako pour aller à Sigasso, à chaque poste de contrôle, c'est des panneaux publicitaires par rapport à l'alcool. Donc, en réalité, on dit qu'il y a des laxismes au niveau de nos autorités. Il y a une fuite de responsabilité. Parce qu'en réalité, être un responsable, ce n'est pas uniquement juste de profiter des privilèges. Mais c'est aussi éduquer le peuple. C'est aussi aider les gens, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent bien vivre. Et quand on dit que nos autorités ont l'obligation de mettre des codes de la route et de veiller au respect de cela. Mais pourquoi? Parce que c'est pour préserver la vie des citoyens. Donc, dans ce même ordre d'idée, pour préserver la vie des citoyens, pour bien éduquer la jeunesse, pour aider les gens, n'est-ce pas, à être des gens, des acteurs de bon chemin, pour qu'ils vont contribuer au développement du pays, nos autorités aussi doivent accorder une importance à ces problèmes.
Alors, une situation qui traverse le Mali de Kaya à Kidal, c'est cette crise dont le Mali tente aujourd'hui de sortir. Alors, Sanouko Koulibaly, vous êtes médecin, toxicologue. Est-ce que vous pensez que la crise est un élément favorable à cette consommation, forte consommation d'alcool au Mali?
Bon, ça c'est vraiment... Je peux dire que c'est diamétralement opposé. Vous voyez, ça n'a absolument... Il n'y a aucun rapport. À tout dire, il n'y a aucun rapport, quel que soit. Nous sommes un pays auquel il y a des bases culturelles auxquelles on s'est toujours, comment dirais-je, on a pris en considération. Quelles que soient les difficultés que le Mali traverse, ce problème n'a rien à voir avec la situation actuelle. Pas du tout. Loin de là. Voilà.
Alors, le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit sur nos antennes, il y a une loi qui légifère dans ce domaine, qui réglemente la consommation et la vente d'alcool au Mali. Est-ce que vous pensez que cette loi est respectée, Ousmane Diarra?
Cette loi n'est pas du tout respectée. C'est ça le problème. C'est ça qui fait mal. En réalité, nous-mêmes, on élabore des lois, on met en place des dispositions et c'est nous qui sommes les premiers à violer ces lois. Et je pense que le Premier ministre a signalé qu'il y a plus de 150 bars qui ne respectent pas les normes. Plus de 150, imaginez, plus de 150 bars recensés.
Rien qu'à Bamako.
Quand même, il a signalé qu'il y a plus de 150 qui ne respectent pas les normes.
Sans compter ceux qui respectent les normes.
Sans compter ceux qui respectent les normes.
Pour un pays, 98%
de musulmans. Donc, vraiment, nos autorités doivent prendre les responsabilités. Ils ont l'obligation de protéger les citoyens. Ils ont l'obligation de protéger et de bien orienter la jeunesse malienne. Parce que c'est la jeunesse malienne qui est l'avenir de demain. Parce que nous avons une population qui est à majorité jeune. On dit plus de 50% des Maliens ou peut-être 80% des Maliens ont l'âge de l'âge moyen de 16 ans. Donc, qui fait que réellement, si on ne fait pas des efforts pour respecter ces lois, pour appliquer ces lois, c'est qu'on ouvre une porte de dérive pour notre pays. Et très souvent, quand on parle de respecter ces lois, d'autres pensent qu'il y a des gens qui veulent islamiser les pays ou qui veulent imposer leur idéologie aux autres, ou qui veut entraver la liberté des gens.
Vous pensez qu'il y a un faux procès qui est fait aujourd'hui aux leaders religieux?
C'est un faux
procès.
Procès.
Nous allons
observer
juste quelques secondes de pause et nous allons reprendre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse.
écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, notre page Facebook, mais également notre compte Twitter et notre site web www.studiotamani.org où vous pouvez écouter ce débat en direct ou revenir sur nos éditions précédentes. Alors, nous débattons aujourd'hui de la consommation d'alcool au Mali et nous sommes dans le deuxième volet qui parle des effets nocifs de l'alcool sur le corps humain. Alors, nous avons comme invité Sanou Koulibaly, docteur toxicologue, et Ousmane Diarra, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Alors donc, cette deuxième partie parle des effets nocifs de l'alcool. Ce rapport accable les jeunes maliens qui sont donc la majorité des consommateurs d'alcool au Mali. De façon générale, quelles sont les conséquences sur le corps humain, docteur?
Merci beaucoup et pour la question. D'abord, par rapport au rapport et aussi aux effets nocifs, je reviens un peu sur les chiffres. Si je prends l'exemple sur la France, dans les années 60 jusqu'en 97, bien que le Mali n'a pas encore fait sa propre enquête sur le taux d'alcool et la consommation excessive d'alcool, en France, dans les années de 63 à 97, il a été montré que la consommation d'alcool, comme le Mali a été incriminé cette fois-ci, est passée de 11 litres, de 18 litres à 11 litres. Alors qu'au Mali, je vois que nous sommes à 29,3 litres. Donc, vous voyez, nous sommes contraires par rapport à un pays qui est, nous disons, beaucoup plus développé. Vous voyez. Et aussi, sur le plan humain...
Le Mali dépasse même la Russie.
Ça, c'est très clair. Bien que c'est un pays auquel ça neige à tout moment. Et dans selon nos compréhensions, on nous dit, non, mais quand il fait froid, il faut boire soit du café chaud, il faut boire, je ne sais pas, du whisky, du quelque chose, vous voyez. Mais nous sommes un pays auquel la chaleur, on a besoin même de l'exporter. Et nous sommes encore loin de ces chiffres.
Un pays en voie de développement.
Et voilà. Et encore, comme on a l'habitude de le dire, et vous venez de le révoquer, la population jeune. Attention, quand on dit jeune seulement, il ne s'agit pas de la population la plus active, mais nous nous situons par rapport à la consommation alcoolique des gens de 34 à 64 ans. Donc il s'agit des jeunes et des adultes. On dit des grands adultes. Donc pour ne pas dire les personnes âgées, parce qu'il y a une classification internationale qui classe selon les tranches d'âge et aussi les classes d'âge. Les classes d'âge, il s'agit des enfants, des adolescents, des adultes. Les tranches d'âge, en ce moment, on prend année par année, vous voyez. Et la consommation alcoolique, la plupart, c'est enregistré entre 34 et 64 ans. Et en fonction de cela, ça c'est pas du hasard, il y a des pathologies auxquelles ça fait attrait. À partir de 60 ans, donc le corps devient sénile, le corps vieillit et les organes vieillissent aussi, tout est lent. C'est pourquoi il y a plein de pathologies qui font et qui ressortent, malgré qu'il n'y a pas de consultation. Et pour le faire, c'est à partir des consultations de routine qu'on découvre constate. Non, vous avez d'autres pathologies plus que votre motif de consultation. Avant 34 ans, il y a plein d'autres pathologies aussi auxquelles on craint. Mais à partir au moment où on est atteint effectivement d'une consommation chronique d'alcool, on peut dire de l'alcoolisme chronique, jusqu'au délirium tremens. Et ça, c'est fréquent encore au Mali et c'est encore beaucoup plus inquiétant. Le délirium tremens, c'est la consommation. Il s'agit d'une toxicomanie à l'alcool.
Une dépendance.
Une véritable dépendance à l'alcool, auquel on n'a même plus besoin de boire. Il suffit seulement de sortir sous un soleil, vous voyez, et que l'endroit soit un peu ensoleillé, vous êtes déjà ivre.
Ah oui.
Alors que généralement, on boit de l'alcool pour s'enivrer et pour oublier ses soucis. Ça, c'est selon la compréhension de l'alcoolique. Maintenant, quand on revient à l'alcoolisme chronique jusqu'au délirium tremens, tu n'as plus besoin de boire. Et vous allez voir, depuis au début, le sujet il va présenter des teints, effectivement, qu'on dit teints ministériels. Et c'est ce qui pousse aussi actuellement les jeunes à aller vers l'alcoolisme.
Et pourtant, ça adoucit la peau,
voilà,
ça éclaircit la peau.
Un ministériel, il est content et encore, il s'enfonce dedans. Et encore, ça devient une dépendance. Il ne peut plus se passer de l'alcool. Sinon, c'est des maux de tête, des tachycardies, des battements plus fréquents du cœur. Et effectivement, des comportements bizarres, c'est ce qu'on appelle des troubles du comportement. À travers cela, le sujet a tendance à aller vers l'alcool, tout comme la drogue. Vous voyez? Alors, et ça, c'est un grand problème.
Merci beaucoup, docteur. Yeah. Alors, Ousmane Diarra, vous êtes secrétaire général de la jeunesse du Haut Conseil islamique. Est-ce que les conséquences sociales aussi, il faut en parler. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées au sein de votre organisation pour sensibiliser?
Les conséquences sociales aussi sont énormes, comme le médecin vient de nous montrer les conséquences médicales sur le plan de la santé. Ouais. Les conséquences sociales aussi, il y en a beaucoup. On voit que ça réduit la productivité. Les alcooliques, ils se donnent plus de temps à boire de l'alcool qu'à travailler. La productivité devient réduite, diminue. Et ensuite, il y a aussi une dépravation des mœurs. Peut-être cela est lié à ça. Quelqu'un qui est alcoolique, qui est en état d'ivresse, il fait tout ce qu'il ne peut pas le faire en état normal. Et malheureusement, peut-être en mois de novembre, on a dit qu'à Gao, il y a un militaire malien qui a tué ses collègues et blessé 4 militaires sous l'effet de l'alcool. Vous voyez, l'alcool a... lui a amené à tuer son collègue au lieu de tuer l'ennemi, mais c'est son collègue qui le tue. Il a blessé 4 autres. Donc, ça, c'est des conséquences sur le plan. Et quand on regarde aussi l'accident dans nos circulations, c'est lié à l'état d'ivresse, de jeunes qui sont en état d'ivresse, qui se mettent à conduire. Donc, sur le plan économique aussi, ça nous met en retard. Imaginez quelqu'un qui doit prendre en charge ses parents, si lui... par l'effet de l'alcool, il fait un accident ou il tue quelqu'un ou il pose des problèmes à quelqu'un. Donc vous voyez que c'est des difficultés sur le plan social, sur le plan de la moralité. Ça amène les jeunes à se comporter mal, à faire certains comportements qu'ils ne peuvent pas les faire à un état naturel. Maintenant, au niveau de notre organisation, du Haut Conseil islamique, le Haut Conseil islamique, c'est l'interface entre la communauté musulmane et les autorités de pouvoir public. C'est pour cela que le président il a alerté nos autorités. Et au niveau de la communauté musulmane, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans les prêches, dans nos mosquées, à travers l'éducation. Mais chacun a ses limites. Et pourquoi on dit qu'il faut l'intervention de l'État pour que les gens puissent respecter le code de la route? Alors, on demande à tout le monde, c'est pour notre propre intérêt. Mais pourquoi l'État intervient? Si l'État n'intervient pas, si les policiers n'interviennent pas pour régulariser la circulation, les gens ne respectent pas le code de la route. Donc, d'où l'importance ou la nécessité que nos autorités s'impliquent pour résoudre ou réduire, n'est-ce pas, ces phénomènes. Et ce n'est pas pour freiner. Mettre frein à la liberté des gens, ce n'est pas pour imposer une idée quelconque aux gens, mais c'est réellement pour l'intérêt du pays.
Alors Ousmane Diarra, il y a beaucoup de... Vous êtes au Conseil islamique du Mali, il y a beaucoup de discussions comme ça entre les jeunes. Certains disent tout ce qui peut rendre ivre, il faut s'en éloigner, c'est ce que dit l'islam. Qu'est-ce qu'il en est réellement?
Effectivement, tout ce qui peut rendre ivre, l'islam l'a interdit. L'islam l'a interdit parce que c'est nuisible pour la santé. Ce n'est pas pour autre chose, mais Dieu, il veut pour nous des biens. Et quand il nous interdit quelque chose, c'est dans notre propre intérêt. Donc, tout ce qui rend ivre, n'est-ce pas, selon les principes de l'islam, est interdit.
Est-ce qu'on peut boire un tout petit peu? Non, du tout?
Du tout.
Du tout.
Du tout. C'est ça qui nous est recommandé par l'islam. Et quand on regarde les statistiques, quand on parle de 29 livres, litres par buveur, dans leurs statistiques, ils prennent en compte ceux qui sont les consomment journalièrement et ceux qui les consomment une fois par semaine et ceux qui les consomment peut-être une fois dans l'année ou une fois dans le mois. C'est tout cela rassemblé, c'est la moyenne
qui est
de ce qui est consommé qui représente 29 livres. C'est pour cela que c'est alarmant. Quand les gens disent que, voilà, par rapport au taux national, c'est 1%, bien sûr. Mais par rapport au
taux, n'est-ce pas?
Donc vous pensez la que c'est
moyenne,
la même chose?
La moyenne de ceux qui boivent l'alcool, leur consommation moyenne qui est 29 litres par personne.
Donc on ne se trompe pas quand on dit bonnet
donc,
blanc,
soit,
blanc bonnet.
Il y a deux choses. Il y a deux choses qui ressortent dans, dans cette statistique. Soit le taux qu'on a donné 1% n'est pas le taux réel des gens qui boivent, ça va? Soit ceux qui boivent consomment plus que le taux normal qui il a dit dans d'autres pays,
qui est la France,
la France ou les autres pays,
la Suisse et ainsi de suite.
Oui, qui est peut-être à 22 ou peut-être le par rapport au taux normal. Donc vraiment, moi je dis bien, nous devons tirer profit de ces rapports. Ça va, ça nous alerte et non pas mener des polémiques par
autour
rapport,
par rapport
à l'interprétation de tel ou tel point, mais en réalité, comme on dit dans la sagesse, veut dire si tu ne trouves pas parmi tes amis celui qui te dit la vérité, il faut écouter ton ennemi. Très souvent, quelqu'un qui te contexte, quand il fait des critiques, même si cela n'existe pas en toi à 100%, mais il y a un pourcentage qui est en toi.
Il faut tout
c'est pour cela qu'on dit qu'il faut l'opposition. L'opposition, il fait des critiques et ça permet au pouvoir
de se corriger.
De se corriger.
Ah oui. Donc vous estimez que vous êtes dans votre droit.
Oui. Merci moi, beaucoup. Je pense que vraiment, nous devons profiter de ces rapports, non pas mettre ces polémiques par rapport à ces points.
Oui. D'accord. Oui. Alors, on sait que dans nos pays, dans les pays africains, il est très difficile de mettre en place les cellules psychologiques pour prévenir ou bien pour atténuer les effets donc, de ces produits-là sur le corps humain et également leur effet dans la société, avec la violence que cela entraîne. Docteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali manque de structures adéquates pour encadrer les personnes dépendantes, par exemple, de l'alcool, des structures psychologiques?
Effectivement, je peux dire qu'on n'avait pas ou on n'a pas besoin jusqu'à présent de ces structures de soutien psychologique parce que nous ne sommes pas, à vrai dire, un pays alcoolique. La conscience vient d'être...
D'arrêter la polémique.
Voilà, vient de se réveiller. Voyez. Donc, en ce moment, si nous étions depuis très longtemps imbus dans ce problème, alors des mesures d'accompagnement auraient été déjà prises pour pouvoir, essayer de réunir les alcooliques au sein des associations, pour essayer de faire des soutiens psychologiques, ou même entre eux aussi de se concerter. Mais à partir de ces rapports, effectivement, nous pouvons essayer de voir comment il faut maintenant, à notre niveau, recenser ces cellules alcooliques, et essayer d'apporter des soutiens, bien que ça puisse se faire dans les maquis. Il ne s'agit pas des maquis boîte de nuit.
Il s'agit de...
Dans les maquis. C'est-à-dire qu'en catimini, vous voyez, sans alerter la population générale. Et c'est des enquêtes, on peut dire des sous-enquêtes, qui se font de façon clandestine. Et en ce moment, et petit à petit, ça peut prendre de l'ampleur jusqu'à ce que d'autres qui avaient peur d'adhérer peuvent aussi venir demander d'être
des
effectivement. Et voilà, je crois que déjà on peut commencer par rapport à cela et on verra comment ça va passer. Parce que c'est comme au début, la lutte contre le VIH. Les gens ont peur de se montrer et ce serait à peu près la même chose. L'alcoolique qui est souvent violent, et va tout balayer d'une main de revers. Voilà, donc en ce moment, il faut partir en douceur et essayer de faire comprendre à la population comment il faut parvenir à rassembler les alcooliques. Et voilà. C'est mon point de vue.
Alors, on constate également des chefs de famille qui s'adonnent à cette pratique, qui sont dépendants de l'alcool. Qu'est-ce que la mosquée fait dans ce domaine dès qu'on détecte un cas similaire?
La mosquée a un rôle d'éducation. Et nos imams, très souvent, ils ont cette pédagogie. Ils font ces cours pédagogiques aux fidèles qui fréquentent la mosquée. Il s'agit de les montrer les conséquences, de les exhorter à s'éloigner de cela. C'est ça qu'ils disposent comme moyen. C'est le moyen pédagogique. Et mettre l'accent sur la foi, sur la spiritualité, et montrer aux gens les méfaits. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous devons travailler aussi avec nos frères médecins qui sont des spécialistes pour réellement montrer aux gens les conséquences. Parce que quand il dit à la plupart des jeunes que l'alcool est nuisible à la santé. D'autres disent que non, même l'eau qu'on consomme, même le riz qu'on mange peut se fermenter. Et y a, ça peut être, oui, bien sûr, mais le taux qui est nuisible à la santé n'est pas le taux qu'on trouve dans les aliments licites, dans les aliments qu'on peut consommer. Donc, nos imams font leur mieux, nos prêcheurs font leur mieux, mais ce qu'il faut dire, que nous devons conjuguer nos efforts. C'est pour cela, la famille a un rôle à jouer, la mosquée a un rôle à jouer, les leaders ont un rôle à jouer, et les autorités aussi, ceux qui disposent, qui doivent mettre en vigueur, respecter les lois, n'est-ce pas ? Eux aussi, ils ont vraiment un très grand rôle à jouer. Parce que s'ils ne le font pas, s'il y a des laxismes à ce niveau, c'est qu'on facilite l'accès à cela et on pousse la population à aller vers ces dérives et ça nous pose des problèmes de développement et ça fait que tous les pays qui va sombrer dans ces problèmes, que Dieu nous préserve.
D'accord. Alors nous allons, avant juste de vous donner la parole, docteur, nous allons observer une courte pause avant et nous poursuivrons avec ce débat.
Réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous sommes à la troisième et dernière partie du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue aujourd'hui qui réfléchit sur la consommation d'alcool au Mali. Après, suite au rapport, au dernier rapport de l'OMS sur la consommation d'alcool, classant le Mali parmi les plus grands buveurs d'alcool dans le monde. Alors, nous sommes donc à la troisième partie, l'alcool et les réalités socio-culturelles au Mali. Nous avons comme invité le docteur Sanunko Koulibaly, toxicologue, et Ousmane Diarra, secrétaire général du Haut Conseil de la Jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Alors, la société malienne est-elle en train de changer son mode de fonctionnement, docteur ?
Merci. Je voudrais souligner, avant de répondre à cette question, les effets les plus importants de l'alcool sur le corps humain. Il faut d'abord souligner que l'alcool a un effet très très nocif sur le foie, qui a un rôle important pour recevoir l'alcool et essayer de l'éliminer. Ensuite, donc, d'où les pathologies, l'insuffisance hépatique, la cirrhose hépatique et effectivement les inflammations, ce qu'on appelle les hépatites fulminantes. Encore sur le rein, et c'est pourquoi on a les termes ministériels, on devient boursouflu. Donc, il a un rôle pathologique sur le rein, d'où l'insuffisance rénale. Il a aussi un rôle très très néfaste sur le poumon, d'où effectivement les détresses respiratoires, les encombrements bronchiques. Il a aussi un rôle très important pour le développement du cancer des voies aérodigestives. Il s'agit du cancer de l'œsophage, le cancer du larynx et aussi les inflammations du tube digestif à passer par les coliques hémorragiques et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez ? Donc ça, c'est en un mot. Aussi, l'alcool a un rôle de malformation congénitale, d'où les hydrocéphalies. Ça, c'est très important et c'est ce que je tenais à souligner avant de répondre.
Alors, juste une parenthèse, oui. Malformation congénitale des enfants qu'on s'apprête à
donner naissance chez la femme enceinte. Et surtout, en ce moment, il s'agit de l'alcoolisme chez les femmes.
Chez les femmes, voilà. Uniquement,
mais un père alcoolique, même si la femme en ce moment n'est pas alcoolique, il va donner ce qu'on appelle la dengue. Et vous allez avoir des enfants qui ont des retards de développement psychologique et des retards de développement mental et sur le plan scolaire. Voilà des enfants auxquels on accuse à longueur de journée de vauriens, alors que non, il faut voir la répercussion familiale. Ça, c'est très important.
Donc, voilà. Le père peut être alcoolique sans qu'on le sache. Alors, la société malienne est-elle en train de changer, docteur?
Par rapport à cette question, comme je l'avais souligné depuis à l'entrée du débat, là, le changement au niveau de la population malienne est vraiment alarmant. Surtout les effets des médias auxquels on tente de les imiter, contrairement à nos réalités culturelles. Et aussi, il suffit simplement de voir les petits-enfants qui n'ont même pas encore l'âge d'être ados. Le comportement des parents en est une véritable responsabilité. Et c'est ce qui pousse nos familles à aller vers la dérive. Donc la société malienne est en train de changer avec une vitesse, et je ne sais pas comment il faut le calculer. Et c'est vraiment, il faut que nous, les parents d'élèves aussi, et les responsables de famille, nous prenons conscience de cela et amener des rigueurs au sein de la population. Sinon, ça ne va pas du tout.
Alors, le Mali se développe. Le Mali également est accusé, à tort ou à raison, de laisser ses enfants à la dérive, si on peut s'exprimer comme ça. Ousmane Diarra, vous êtes du Haut Conseil islamique. Le Haut Conseil islamique mène beaucoup de campagnes pour la préservation des mœurs. Qu'est-ce qu'il en est réellement au Mali?
Je pense qu'on fait notre mieux, on essaye de les faire.
Que pensez-vous de la société actuelle?
Oui, la société actuelle est en train, comme le médecin a dit, nos frères a dit, est en train de changer.
Et le changement
est visible, il y a des changements positifs, mais les changements, ce qui est négatif, sont... c'est-à-dire, c'est ça qui est très très visible, quoi. C'est ça qui nous fait peur, c'est ça qui nous donne beaucoup d'inquiétude. Et très souvent, quand les gens analysent ces phénomènes, ils analysent sur l'angle économique, en essayant de dire, voilà, ça crée de l'emploi, ça permet aux gens, il y a les taxes qui sont payées. D'autres analysent uniquement sur l'angle économique. Et si on voit, l'angle économique est important, mais quand on regarde les dégâts aussi que ça pose, combien de familles sont détruites, combien de foyers sont détruits, combien d'enfants sont peut-être mis dans des conditions qui ne les permettent pas d'être, de se prendre en charge ou de contribuer au développement de leur pays et qui seront des fardeaux sur leur pays. Donc, on regarde les avantages éphémères en oubliant les conséquences énormes sur le pays. Donc, la société malienne est en train de changer et le changement, c'est tout à fait, c'est les règles de la vie, mais nous devons essayer de changer sur le plan positif et aussi de diminuer les conséquences et les méfaits de ces changements négatifs et dont nous sommes interpellés. Et grâce à l'intervention du président du Haut Conseil, ça a suscité les débats. Si ce n'était pas l'intervention du président du Haut Conseil, le rapport allait rester peut-être inexploité. Mais ça a suscité un débat. Et je dis, c'est pour cela que je dis, les chiffres ne sont pas importants, mais c'est indicatif. C'est pour nous alerter que nous devons prendre conscience et que nous devons agir vite.
Alors, il y a un produit alcoolique que je ne vais peut-être pas citer dans ce débat qui fait beaucoup de, qui est très célèbre au sein de la couche juvénile. Que pensez-vous de cette façon-là de vulgariser l'alcool au sein de la couche juvénile? Quel est le regard, quel doit être le regard des autorités sur ce genre de campagne?
Et c'est pour cela que nous devons être très très attentifs. Je dis, on fait passer des messages négatifs sans qu'on se les rende compte. Imaginez, il y avait des panneaux publicitaires qui montrent une femme, ce n'est pas un homme, une de nos sœurs, une maman, une sœur, qui est sur le panneau avec la bière et on met un message, un peu plus une bière.
Qui colle avec la situation, en quelque sorte.
Et sur le point sensible de la ville. Imaginez quel message on fait passer. Ce n'est pas un homme qu'on a amené, mais c'est une femme qu'on a amené. C'est pour dire que la société va, allez-y. C'est pour inviter les gens vers les dérives. C'est pour cela que nous devons être attentifs, comme vous avez dit, à certains, produits alcoolisés et d'autres qu'on essaye de changer les noms. Et là, le prophète paix et salut sur lui a dit qu'à la fin du monde, on va changer l'appellation de certaines choses. Alors au fond,
ça reste la même chose.
Ça reste la même chose. Donc c'est pour cela que nous devons être attentifs par rapport aux produits qu'on nous propose dans les marchés.
Alors le rôle de l'État pour la régulation dans ce domaine, que doit-on penser du rôle de l'État, docteur?
Bien. Avant d'en venir au rôle de l'État, comme il vient de le souligner, un peuple, une bière, ça je dirais que dans ce cas, c'est pour donner effectivement naissance à une pathologie que nous appelons le crétinisme.
C'est-à-dire?
Et on a l'habitude de dire entre nous, mais c'est un crétin, mais il est crétin. Ce n'est pas de l'insulte, hein. Il s'agit du nom d'une maladie d'origine alcoolique, le crétinisme. Donc il s'agit d'une pathologie effectivement d'origine congénitale, issue des parents alcooliques. voyez, encore une des conséquences. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, ce que l'État doit faire, vraiment, il faut en ce moment... nous avons parlé de l'alcool, mais il y a des effets directs et des effets indirects qu'on n'a pas touchés. Mais peut-être que ça peut faire l'objet d'un autre débat. Et il faut, pour cela, je dirais que nous devrons renforcer les contrôles au niveau des routes. À longueur de journée, nous voyons au niveau de, je ne sais pas, de l'agence qui s'occupe des accidents de la route.
La NASER.
Les rapports de la NASER, très accablants. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas écarter le rôle de l'alcool là-dessus. Donc, si les contrôles autoroutiers sont renforcés, avec des alcoolotests mis en place, mais malheureusement, on en parle, mais rien à faire. Nous, c'est effectivement une occasion pour interpeller nos responsables de mettre en place ou de renforcer ces contrôles autoroutiers et aussi de limiter les excès de vitesse qui peuvent aussi être d'origine alcoolique. Et ça, c'est très important. De renforcer aussi ce qu'on appelle l'ISC, l'information, la communication et l'éducation, au niveau de toutes les couches. À commencer dans le milieu scolaire, auquel souvent on dit il faut prendre le crack pour bien bosser, au niveau de la population civile, aller dans chaque coin ou recoin, passer des messages radiophoniques, des messages publics pour essayer effectivement de réveiller la conscience, de marquer des points sur les effets nocifs au niveau, comme il a bien souligné, la famille, l'économie et la santé. Ça, c'est très important. Au niveau, ça, je peux en ce moment imputer cela à notre responsable, à nos responsables autoritaires, pour essayer de lutter contre ou diminuer le fléau dû à l'alcool. Et voilà ce que je tenais à souligner.
Alors, docteur, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Ousmane Diarra, vous êtes secrétaire général de la jeunesse du Haut Conseil islamique. Vous êtes également imam de la FAST. Je reviens toujours sur ce campus universitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans l'immédiat pour encadrer ce domaine de consommation d'alcool sur le campus?
D'abord, il faut que ceux qui s'occupent du domaine scolaire prennent les responsabilités. Il s'agit des autorités scolaires qui ont la responsabilité de réglementer la gestion des campus, de veiller au respect des règlements intérieurs qui doivent gérer les campus et aussi de sensibiliser, d'éduquer les jeunes afin qu'ils puissent avoir des attitudes beaucoup responsables. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de prendre conscience sur ces dangers et nos autorités doivent prendre les responsabilités. C'est pour cela que le président du Haut Conseil, il a interpellé les responsables du pays. Le premier responsable du pays, qui est le président de la République, c'est lui qui a été interpellé. Donc cela veut dire qu'ils ont une responsabilité d'éduquer le peuple, de les orienter, de les amener sur le bon chemin, si réellement ils veulent œuvrer pour l'avenir de ces pays.
Alors, nous sommes donc, merci à vous messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission, une émission qui réfléchissait sur la consommation d'alcool au Mali suite au dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la consommation d'alcool dans le monde, classant le Mali troisième parmi les plus grands buveurs d'alcool. Je vous rappelle que ce rapport estime à 29 litres le nombre de litres bu par un seul Mali. Parmi toute la population mondiale. Pour débattre donc de cette question, nous avions comme invité Ousmane Diarra, secrétaire général de la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali, le Haut Conseil islamique qui a interpellé le président de la République face à ce fléau. Nous avions également un toxicologue, le docteur Sanouko Koulibaly. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadé Touré et Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Sedoumbo était à la technique et à la régie vidéo. Il y avait Nouhoum Diré et Peting Diarra. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Merci à vous.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Mounde.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.